c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3 pour un nouveau direct depuis nos studios de Coulounier-Chamiers, RLP Business. Nous allons parler activité économique, entreprise et aujourd'hui agriculture. Agriculture, nous sommes avec Alain Quéral de la coordination rurale, Alain Quéral du Château Colin Madrigal. Alain Quéral, agriculteur, viticulteur. Alain, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être venu. Vous allez bien ?
Oui, bonjour.
Bon, donc aujourd'hui, je voulais qu'on se voit un petit peu parce que vous étiez passé cet hiver durant le mouvement au niveau national des agriculteurs et autres. On se souvient, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des barrages routiers, il y a eu quelques grandes surfaces un peu investies et inspectées, gentiment, avec bisous, amour, tout ça. Mais il y a quand même eu un petit peu, voilà, on a bien vu. Alors, on en est où aujourd'hui ? 4-5 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, 4-5 mois plus tard, on est toujours, je dirais, presque au point d'arrêt, parce que pratiquement le gouvernement ne prend plus de grandes décisions, si ce n'est quelques petites mesurettes. Tout le monde est dans l'attentisme des futures élections présidentielles, donc c'est une année de perdu.
Donc vous avez manifesté pour rien cet hiver ?
Mais en fait, on n'a pas de retour positif sur tout ce qu'on a amené comme revendication, comme nécessité pour préserver l'agriculture et les agriculteurs. Donc on a affaire à un dialogue de sourds. Donc on nous promène de droite et de gauche, mais on n'est pas sur des vraies avancées.
Oh, il y avait eu des vraies propositions qui avaient été faites il y a un an, et des vraies propositions qui ont été faites en février, me semble-t-il.
On a fait énormément de propositions.
Oui, mais eux, vous avez répondu. Je crois que le gouvernement avait répondu sur certaines choses.
Ce sont des propositions de mesurettes. Nous, on attendait des vraies mesures.
Alors, est-ce que vous avez obtenu quelque chose ?
Les choses qui ont été obtenues, ce sont des petites mesurettes, le contrôle unique qui, en fait, va se traduire à un contrôle annuel presque obligatoire au final. Donc ce n'est pas une vraie avancée pour le nom de la simplification, de faire 50 contrôles, ils vont en faire plus qu'un, mais un complet.
D'accord. Ils vont venir 50 fois, ils vont venir une fois
par an chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs vont avoir un poids de contrôle, de vérification plus important. Ça touchera tout. Et donc, ça va contraindre encore plus l'agriculteur dans les difficultés de ce contrôle.
Donc, ils vous ont dit, on vient moins souvent, vous aurez moins de temps à nous consacrer dans l'administratif. Par contre, on va durcir un peu plus.
Voilà. Donc, à force de durcir un peu plus, les agriculteurs sont des gens qui travaillent et produisent. Ils n'ont pas la capacité de se payer des outils administratifs pour vérifier tout, pour contrôler tout, pour mettre tout aux normes, tout dans les clous. Donc forcément qu'il y aura une ligne ou une autre qui ne sera pas correcte et ils prendront bien sûr des amendes et voilà, il y en a.
C'est la seule conséquence, ces deux ans de manifestation, le contrôle, l'application des règles, c'est la seule conséquence.
Oui. Après, le seul point positif, c'était de faire annuler la taxe qui avait été décidée à l'époque par l'État et la FNSEA sur le gasoil. Qui en fait, elle est facturée et enlevée au moment de l'achat chez les pétroliers qui nous livrent. C'est ce qui est fou, d'ailleurs. C'est complètement fou.
Redites-moi ça, je ne comprends pas très bien.
Mais en fait, le départ des manifestations, on a commencé en janvier, mardi de janvier 2024, je ne sais plus le 9 ou le 10 janvier, au rond-point de l'aéroport de Bergerac, parce qu'il y avait une taxe qui avait été décidée par le gouvernement pour ramener le prix du gasoil GNR tracteur au prix du gasoil blanc traditionnel, par un système de taxes avec toute une hiérarchie d'augmentation dans le temps et tout. Et cela a été validé en même temps par la FNSEA, enfin par M. Rousseau, qui en même temps plaçait ses produits en étant président de Sofri Pétrole et tout ça, enfin de l'activité Colza.
D'accord.
Voilà. Et donc tout ce petit monde s'était mis d'accord. Et puis en fait, on se retrouvait à avoir un prix carburant énergie qui explosait. Et en fait, l'État n'a pas enlevé la taxation. Il a simplement créé un système de remise générée par le distributeur qui nous livre. Donc d'un côté, l'État facture et réenlève. Mais la loi est toujours présente, elle n'est pas désactivée.
Ah, c'est-à-dire que vous assimilez ça à une exonération temporaire, c'est ça en fait ?
C'est une exonération qu'elle peut être du jour au lendemain.
Qui tient un fil, d'accord, qui n'est pas gravé dans le marbre.
C'est pas quelque chose, un vrai acquis.
Bon, donc ils vous ont mis...
Donc c'est déjà un faux acquis.
Une augmentation des contraintes, ils vérifient encore plus que les règles sont suivies, ils vous ont baissé un peu le prix de votre carburant professionnel, de manière temporaire.
Ils l'ont laissé au prix qu'il était du marché.
D'accord, ils ont accepté de ne pas l'augmenter.
Mais sans l'augmenter.
C'est d'accord. Accepter de ne pas l'augmenter.
Voilà, c'est pas la même nuance.
Non, absolument d'accord, ok. Et il y a une autre conséquence de ces deux ans de lutte, là, où on a vu des gens qui jouaient leur vie quasiment à un certain moment. Hein.
Mais en fait, il y a le côté qu'on a revendiqué le plus, c'est le côté économique. Un agriculteur qui travaille, qui fait des heures, qui risque son capital et qui, au final, il se retrouve à vivre avec un demi-smic ou des choses comme ça, ce n'est pas entendable, ce n'est pas possible.
Et ceux qui vous répondent qu'ils ont des machines qui valent super cher, des grands terrains et un confort de vie.
Les agriculteurs, bon. C'est vrai que visuellement, vous voyez les agriculteurs avec du terrain, les agriculteurs avec des machines, beaucoup de machines. Les machines, elles ont deux origines souvent, ou elles appartiennent à la banque parce qu'elles ne sont pas payées, ou elles appartiennent aux fabricants, elles sont en leasing.
Ouais, ouais,
l'agriculteur n'est que utilisateur. Utilisateur, moyennant un loyer, une somme à payer ou un emprunt à rembourser. Mais il ne faut pas imaginer que l'exploitant est propriétaire de tout ou partie, de tous ses outils et tout. C'est une fausse vue, même s'il paraît que les machines sont grosses, belles, c'est tout ce que vous voulez, quoi.
Alors, nous en parlions en off, parce qu'on a discuté un petit peu, là, avant de prendre l'antenne, et vous nous avez expliqué quelque chose. Vous m'avez expliqué quelque chose, moi, qui a fait du sens. Moi, j'aime bien les gens. Et il faut leur redire, vous dites que le drame producteur agricole et du consommateur, qui fait que nous sommes tous là en train d'aller chercher de la qualité, de fuir les pesticides, les empoisonnements, les machins, les trucs transformés et tout. Et vous dites, mais oui, mais le problème, c'est le délai entre la cueillette, la moisson, ce genre de choses, et l'achat au consommateur, c'est le temps. On achète des trucs vieux, en fait. C'est ça, vous m'expliquez.
Oui. En fait, bon, on peut dire qu'on aurait deux grandes familles d'agriculture. Il y a les produits qui sont les produits qu'on récolte une fois par an, les produits secs, et après, il y a les produits frais. Donc, et le drame est dans les produits frais, viande compris, c'est qu'en fait, entre le moment où l'agriculteur vend sa marchandise et le moment où le consommateur va consommer cette marchandise, la durée qui est entre les deux a énormément augmenté par rapport à autrefois.
On a plusieurs semaines, parfois.
Voilà, il y a tous les circuits possibles. J'étais il y a 15 jours avec un importateur de saumon au port de Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est sa première fonction d'importer des saumons pour toute la grande surface française. Ce monsieur m'expliquait que le saumon est pêché pendant 2-3 mois dans les mers du Nord. Avant, il était travaillé à Boulogne-sur-Mer pour être distribué. Maintenant, il part directement en Pologne, en surcongélation. Il est traité en surcongélation, emballé, étiqueté et il revient sur la distribution. Et ça, c'est le premier saumon, première qualité qu'on a dans les magasins.
C'est-à-dire
et le saumon, il se retrouve qu'il a 4, 5, 6 mois.
Il est en magasin, devant vous, devant nous, on l'achète, il est sorti de l'eau il y a 6 mois.
Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais toute notre agriculture française subit en fait les délais et les contraintes imposées par l'industrie agroalimentaire et à la distribution qui impose aussi les siennes. Tous veulent gagner, ne veulent pas perdre, n'acceptent pas d'avoir un problème X ou Y de perte. Donc on fait payer à l'agriculteur le fait de lui acheter des produits très bon marché. On fait durer le produit par des moyens techniques, par des moyens chimiques, parce qu'il faut bien le dire.
Hein. Et on l'irradie parfois un peu aussi.
La technique a beaucoup évolué. Et au final, le consommateur vient dire « Ah oui, mais l'agriculteur, il produit des trucs pas sains.
Ben. »
Excuse. L'agriculteur, quand il a cueilli son produit, il est sain. Après, ce qui se passe après lui ne le concerne plus et il n'en est plus responsable. Alors, si le consommateur a des choses à redire aux industries agroalimentaires et aux distributeurs, ils peuvent le faire, mais qu'ils ne reprochent pas à l'homme qui a produit un produit bon de devenir mauvais dans le temps.
Non, ça, c'est intéressant parce qu'on en parlait aussi hors antenne. Il y a quand même une prise de conscience qui se voit énormément chez les jeunes générations, aussi sur les miennes. Moi, je fais partie de la génération où on était des fous du boulot, on mangeait devant l'ordinateur. On se nourrissait mal, on comprenait pas pourquoi ça se passait mal d'ailleurs, mais on se nourrissait très très mal. Et là, ça fait une dizaine d'années que vraiment on veut tout changer, que le bio est arrivé, on rentre dans une grande surface, on a des étoiles rouges plein la tête, attention, OGM, pesticides, poisons, aliments transformés, tout ça et autres. Donc il y a vraiment une volonté de la population de s'alimenter mieux, de monter en qualité. Et vous nous dites que quoi qu'on fasse, en fait, la pomme qu'on va acheter, le chou-fleur qu'on va acheter, ils ont 3 semaines.
Tous les produits subissent... tous les produits que vous achetez dans des grandes chaînes, la filière qu'on appelle la filière longue, subissent...
Avec centrale d'achat, centralisation... Voilà,
ils sont dans un système de produits vieux. On mange des produits vieux. Si vous voulez manger un produit qui est acceptable, qui est bon, qui est sain, quelle que soit la technique de production de l'exploitant, il faut le lui acheter à lui. Mmh. L'agriculteur va récolter, mettons, ses légumes l'après-midi et les mettre à marché le lendemain matin.
Mmh. Bah oui.
Et là, vous êtes sur des produits vraiment frais, bons pour votre santé.
Alors, on va parler des maraîchers, notamment, parce que ça veut dire production locale, ça veut dire qu'on n'est pas sur des usines gigantesques, parce qu'on fait de la production autour de soi, on ne fait pas de la production pour 40 pays à la fois. En même temps, moi, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent des complications sur les circuits courts. On a des difficultés à écouler sa production aux gens autour de soi parce qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est une légende ou c'est vrai ?
Les contraintes, elles sont multiples et elles sont même, c'est presque affolant. La première contrainte du producteur, c'est de dégager suffisamment de temps pour pouvoir commercialiser son produit en direct.
Alors ça, c'est dans tous les métiers. On produit quelque chose, mais la distribution, l'amener au client, c'est un travail, c'est un métier.
C'est un travail et ça consomme du temps.
Oui,
ça, c'est
sûr. Il y a des compétences et plein de choses.
Voilà. Le deuxième point, c'est après toute la réglementation qui va accompagner la mise en marché. Et en fonction de lieu de vente et de ce que vous allez faire, vous allez être soumis, ou bien si c'est un marché, à la règle des marchés. Donc les horaires, la présence, tout ça et tout.
Oui, marchés qui aujourd'hui sont ouverts durant les heures de travail. Donc en fait, ils sont ouverts durant les heures de travail. Là, ceux qui contrôlent et qui organisent, pas des clients.
C'est pas l'agriculteur qui décide, c'est les communautés de communes.
Ah, c'est
communes
ça, voilà. Donc ils gèrent, font les marchés aux heures qui les arrangent, eux. Mais c'est pas les heures qui correspondent lorsque les gens sortent du boulot ou qui sont plus en train de travailler.
Alors, il est vrai que la population agricole n'est pas importante forcément aujourd'hui.
Ou en Dordogne.
Oui, mais en fait, on n'est pas forcément toujours à côté d'un consommateur, on n'est pas toujours proche d'eux. Les consommateurs sont plutôt dans les villes, en grande partie autour des villes, et que les produits sont en campagne. Donc la contrainte du consommateur, elle est aussi que, ayant ses heures de travail, ses heures d'embauche et de débauche, il ne dispose pas des moyens pratiques. Rien n'est fait sur le plan pratique pour qu'il puisse accéder au marché de la vente directe.
Alors tous ces magasins de producteurs, on commence à voir, un peu, notamment à Périgueux, il y en a plusieurs et
on
autres.
Commence, ouais.
Il y en a un au Privilège, on commence à voir à Biocoop, il dit production locale. Certaines grandes surfaces disent « nous faisons marcher les locaux ». C'est vrai tout ça, là ? Ça marche bien ?
Il y a quelques produits dans tous les magasins partout.
D'accord.
Pour utiliser l'image de l'agriculteur. Mais si vous prenez les chiffres, le chiffre d'affaires réalisé en réel de cet agriculteur est faible dans le magasin par rapport aux produits, aux mêmes produits qui auront été importés.
Okay, c'est peanuts, ils s'en servent pour faire valoir, ils en mettent un petit peu pour dire qu'ils font.
L'agriculteur sert d'étiquette pour rassurer et pour donner une envie au consommateur d'acheter. Mm-hmm. Mais ce n'est pas là qu'on fait vraiment le marché. Si on voulait vraiment faire le marché aux agriculteurs, il y aurait une organisation de production, de quantité, de date de livraison. Enfin, on rentrait dans un protocole vraiment d'alimentation générale en direct. Là, on est juste du bouche-trou.
Et est-ce qu'on peut débarquer dans une ferme comme ça pour acheter des choux-fleurs, des trucs ?
Oui, si le maraîcher est disponible, il attend, oui, vous pouvez.
D'accord.
Vous trouverez rarement un agriculteur à mettre dehors pour ce que vous achetez quelque chose.
Enfin, en même temps, si je viens, c'est petit, c'est que pour moi.
Après, c'est vrai que lui, sa gestion, c'est son travail et son temps qu'il va dédier à recevoir les gens et à commercialiser. Mm-hmm. Souvent, l'agriculteur qui fait du maraîchage, parce qu'on en parle, il va avoir des heures dans la journée où il est à la collecte, à ramasser, cueillir. Et après, il va avoir des heures qu'il va consacrer à la mise en marché, donc aux gens qui peuvent venir à la ferme acheter.
D'accord.
On a ça à Bergerac, on a un gros maraîcher qui en fait fait la cueillette le matin jusqu'à à peu près midi. De midi à 15h, il prépare les produits. Et à 15h, c'est ouvert à la vente des gens, tous les consommateurs. Et il tourne très, 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 très bien.
Bon, j'ai vu passer sur Internet plusieurs maraîchers, notamment Pragma Actu et autres et tout, qui disaient qu'ils arrêtaient à cause des contraintes, parce que s'ils allaient en dessous des barrières en tant que particuliers, ils n'avaient plus ces contraintes, ils pouvaient vendre un petit peu. Mais dès qu'ils passaient professionnels, on les obligeait à acheter une caisse spéciale, on les obligeait à faire ci, on les obligeait à faire ça, et ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qui se passe là ?
Mais
ils sont plusieurs à dire ça, là,
qu'ils arrêtent. Dans les chiffres, il y a une tolérance de volume ou de chiffres qui fait que vous n'êtes pas soumis aux règles des entreprises. Et passé le chiffre fatidique, vous êtes soumis à la création d'entreprise et vous êtes soumis à la gestion de toutes les boîtes comme partout.
Donc, c'est pas de ça dont il parlait, parce qu'il y a déjà une société, il parlait plutôt des contraintes pour aller sur les marchés, pour faire la facturation, des outils de contrôle qu'on lui imposait,
ce genre de choses. Les caisses doivent détenir une puce qui permet aux impôts de prélever, quand ils passent, tous les chiffres journaliers encaissés. Donc, c'est un système de vérification pour savoir le chiffre d'affaires qu'a fait le maraîcher tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, pour voir s'il a fait ses déclarations correspondante au chiffre d'affaires du marché.
D'accord. Donc on est sur un ultra contrôle, là, c'est hallucinant.
Oui, parce qu'en fait, on fait du contrôle, c'est sûr. On contrôle des gens qui sont sur des petits chiffres.
Oui, et en plus, c'est à eux d'acheter l'appareillage.
Oui, bah, bien sûr. Bah, oui, vous êtes toujours obligé d'acheter le contrôle. Et après, derrière, qui dit l'appareillage, après, il faut un système d'enregistrement, de facturation, de comptabilité. Plus de comptabilité sur Excel, tout ça et tout, mais c'est des logiciels agréés par le gouvernement. Enfin, après, vous rentrez dans un process d'entreprise d'office obligatoire.
Oui, ok. Donc on n'est pas sur la contrainte juridique de l'entreprise, on est sur la contrainte de... On vous oblige à acheter tel logiciel, oblige à acheter tel outil de facturation, telle caisse enregistreuse, et donc vous avez un coût énorme.
Et on va rajouter une couche avec donc le système des factures qui vont être maintenant mis sur des plateformes. Mm-hmm. Et donc vous aurez, pour le producteur, il aura une plateforme pour recevoir ses factures. Et en même temps, il devra avoir une autre plateforme pour émettre les factures.
Donc en plus, il est ingénieur en informatique.
Donc là, il va falloir... Bon, on n'est pas ingénieur en informatique.
Non, mais je veux dire...
Ça va se traduire qu'on prendra des services en prestation, des experts comptables et choses. Et du coup, c'est une facture à payer en plus.
Oui, mais
c'est
bon, une charge. On est sur des... Enfin, je veux dire, un maraîcher qui produit des salades, des tomates et autres, il n'est pas sur des sommes gigantesques.
Non.
Donc, on lui demande de payer des sommes gigantesques. Certains disent, quand on fait la comptabilité, il faut quasiment payer pour travailler.
Il faut faire un beau chiffre d'affaires, un sacré chiffre d'affaires, pour arriver à avoir, pour avoir un revenu, je ne sais pas, on va dire, il faut prendre l'exemple de 15 000 euros par an, ce qui n'est pas énorme.
Ouais, un peu plus de 1 000 balles par mois.
Voilà. Ouais, ouais. Et s'il n'arrive pas à toucher les 5 000 euros de chiffre d'affaires, dans un système...
C'est énorme. Quand on vend des tomates, c'est énorme.
Mais 5 000 euros, vous divisez par 2 euros le kilo, et vous voyez ce qu'il faut faire.
Les
chiffres, c'est fou parce que tout s'emballe.
On peut leur demander de faire de l'authenticité en prenant le temps et en même temps en les pressurant. Il y a un truc qui ne va pas là.
C'est de plus en plus comme ça. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'État veut tout contrôler, tout vérifier, tout partout. Et il traite le petit exploitant, on peut utiliser le mot, la petite agriculture, il la traite comme une entreprise normale, une TPE. Sauf qu'on n'a pas la richesse, on n'a pas les moyens. On ne dispose pas du personnel adéquat pour pouvoir remplir toutes les conditions comptables, fiscales, administratives, sociales et tout. Donc en fait, eh bien, on est noyé, quoi, c'est tout. Ouais.
Alors, je voudrais aller sur un nouveau thème. J'ai vu passer aussi des choses qui ont l'air scandaleuses, mais entre ce que les gens disent et la réalité, je voudrais voir ça. Je voudrais parler de l'abattage. Il semblerait qu'il y ait un retour pour certaines bêtes de maladies qui ne soient pas dangereuses, qui ne soient pas contagieuses, et on vient vacciner les animaux et autres, quitte à le faire au fusil air comprimé à distance, comme ça, parce que les gens ne veulent pas qu'on touche, ils ont une ou deux bêtes, et on vient tirer dessus avec des machins pour leur injecter des produits. C'est vrai, ça ?
Ben, en fait, la vaccination, là où elle est rendue obligatoire, elle s'applique. Mais c'est qu'elle s'applique de gré ou de force.
D'accord.
Nos limites pour les moyens.
D'accord. Donc moi, j'ai ma chèvre qui est en train de tondre mon champ.
Alors, il y a des effectifs. À partir de tant d'animaux, vous n'êtes pas concerné.
D'accord.
À partir de tant d'animaux, vous êtes concerné professionnel.
C'est quoi la limite ? Elle est où ?
Je ne sais pas. Les moutons, c'est 50 moutons. Les vaches, c'est 5 UGB, ainsi de suite.
D'accord. Il faut quand même avoir 5
des animaux,
vaches.
Vous avez, okay. Voilà,
il faut
vous
avoir 5 vaches ou 50 voilà. Moutons, c'est déjà quelque chose. 5 vaches, ça commence à causer.
Bon, ouais. C'est des chiffres.
5
qui
vaches,
sont...
c'est plus de la production personnelle.
Si vous en avez 4, on vous dira rien.
Ouais, c'est vrai. Et on arrive toujours au même problème. Il faut rester pauvre en dessous de la limite. Ne pas dépasser, en faire un petit peu. Vous avez 4 vaches, vous vendez un peu, pas trop, vous vous taisez. Et c'est fou quand même ce système-là.
Mais c'est ce que nos dirigeants, nos lois votées par tous les députés, parce qu'il faut quand même le dire, et quelqu'un a bien voté les lois, tout le monde se plaint. On a fait des remontées, on a expliqué ça aux députés et tout, pour les différentes difficultés qu'on a dans la partie administrative et contraintes et des règles. En réalité, c'est bien ces gens-là qui vont voter ces lois. Ce n'est pas nous. Elles ne viennent pas d'ailleurs.
Et moi, j'ai vu des images avec des CRS, des policiers en quantité impressionnante qui venaient faire de la vaccination sur des animaux.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?
Mais parce que c'est obligatoire qu'ils soient vaccinés, qu'ils ont décidé que quoi coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, c'est leur mot exact, quoi qu'il en coûte, ça sera fait.
D'accord. Et c'est là qu'il faut envoyer le bataillon de CRS.
Et là, s'ils avaient l'armée, ils enverraient l'armée. Ils sont nos limites.
Ils sont de nos limites. Ok.
C'est un peu une folie parce
que... qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs qu'ils mettent dans les animaux, là, on sait vraiment, là ?
Alors, les vaccins, il y a ce qu'on veut nous dire, après...
Non, parce qu'il y a un scandale, il y a 4 ou 5 ans, là, on s'en rappelle un peu, là.
Les vaccins, ça reste complexe. C'est un bon outil. Les vaccins, c'est un bon outil. Ça a permis aux populations de sortir de maladies.
C'est des machins qu'on mange quand même après. Hein, donc,
oui, mais bon, non, mais sur quatre, vous voyez l'ensemble des vaccins. Parce que les vaccins, ce n'est pas que les animaux, c'est aussi des personnes. Mm-hmm. On est aussi vaccinés.
Oui, enfin, ils ne nous tirent pas dessus aux fusillères comprimées
non.
lorsqu'on s'échappe.
Oui, hein, mais en fait, bon. La vaccination part d'une bonne idée, d'un côté positif, il faut le reconnaître,
certes, pour obtenir.
La question qui se pose...
Ouais, quand on voit l'armée arriver pour 5 vaches, on se demande...
La question qui se pose plus dans le fond, c'est la nécessité de vacciner tout le temps et pour n'importe quoi. Est-il sérieusement intendable de vacciner la DNC ou pas?
Est-ce que ça rapporte de l'argent à quelqu'un?
Ben oui.
À qui?
Ah ben déjà, le premier, le numéro un, c'est celui qui fabrique le vaccin. Lui,
d'accord.
Il rigole.
Ok, donc ça rapporte de l'argent au labo. En l'occurrence, là, actuellement, c'est qui gagne vraiment? C'est quel labo qui distribue les trucs hein?
Je ne sais pas.
D'accord. Ça serait intéressant de regarder. Est-ce que c'est lui qui a financé les lois ou
Vous aurez un nom de labo qui, après, sera certainement une pyramide de sociétés. Et
oui,
vous finirez
oui.
avec un ou deux
certes.
Riches dans le monde, comme d'habitude, d'ailleurs, parce que ce n'est qu'un apparat. Hein. Quand on est le nom le commercial, ça ne changera pas la boîte.
D'accord.
C'est pas ça qui va faire la différence. C'est que ces gens-là, ils s'en profitent. Ils profitent des lois. Ils contribuent peut-être à créer un climat de peur X ou Y. Ce
n'est pas un climat de peur. C'est que là, on a de plus en plus de gens, y compris moi d'ailleurs, hein, qui cherchent à se trouver un endroit tranquille pour faire de l'autonomie alimentaire, pour sortir de ce genre de choses. Quand on est une personne seule, on se met à quelques voisins, tout ça. Autonomie, c'est un bien grand mot. Mais déjà, pour les choses principales, on se fait des choses parce qu'on a de plus en plus peur de ce qu'on entend à droite et à gauche.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fait, dès qu'on
a peur... pas les tomates quand même.
Non, bon. Dès qu'on a peur, dès que on a manger, c'est un climat de peur. On ne mange pas avec satisfaction et sécurité. On a toujours une crainte. Donc je dis, c'est quelque part un climat de peur, plus ou moins grand selon les personnes. Donc le système utilise cette peur, utilise ce moyen récurrent que les gens réagissent à la crainte, à la difficulté du lendemain, pour promouvoir des moyens, des contraintes et tout un tas de systèmes. En réalité, quand on regarde les choses un peu plus en recul, il faut savoir que beaucoup d'agents pathogènes que nous avons supplémentaires viennent par le déplacement des marchandises à travers le monde. Et au jour d'aujourd'hui, on développe puissance 20 tout ce qui est les importations. Mmh. Les importations alimentaires, les importations des matières, les importations de l'habillement, les importations de tout ce que vous voulez, on fait naviguer tout ça à travers le monde.
Bah ouais, puis on nous dit qu'après
sans
le carbone, c'est les vaches qui pètent.
Ouais, et non, mais sans
j'ai bien
aucun
compris, ça.
Contrôle
j'ai
sanitaire.
J'ai très bien compris. Ça.
Quand le conteneur il arrive au Havre, est-ce qu'il y a un contrôle sanitaire? Non.
Bah on peut pas, de toute façon. On peut pas regarder s'il y a une bactérie dessus ou un microbe, on peut pas.
En ouvrant comme ça les frontières, on déplace à travers le monde des éléments pathogènes qui perdent leur ennemi personnel.
De toute façon, moi je me souviens, mes ancêtres, enfin une partie de mes ancêtres étaient pieds noirs au Maroc, et ils disaient que, j'ai des amis qui ont immigré en Amérique du Sud, moi-même j'ai vécu en Asie, on s'habitue au biotope local, on s'habitue aux maladies locales, on s'habitue aux microbes locaux. Si vous allez vivre au Maroc, vous allez avoir 2-3 semaines pour vous réguler.
Difficulté, après ça repart.
Après ça repart. Mon pote là, qui est parti au Brésil, lui, il a mis plusieurs années avant de pouvoir manger comme les locaux.
Ah oui.
Pas pouvoir manger comme les personnes sur place. Hein. Ils sont très bien, ils sont en bonne santé. Seulement lui, les premières années, c'était pas pareil. Quoi. Donc, tout brassé, je sais pas, il y a vraiment des spécificités locales quand même. Hein.
C'est des choix économiques. On est sur des enjeux financiers. On n'est pas des enjeux sur la santé humaine, on n'est pas sur des enjeux de préserver la qualité de vie du territoire français, ce n'est pas du tout de la question.
Alors c'est intéressant de voir quand même qu'on privilégie effectivement le brassage, les grandes cultures, les grandes structures, la mondialisation et qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour embêter les petits producteurs et les circuits courts locaux, ceux qui ne dépensent pas de carbone et qui vraiment viennent d'à côté.
On importe des produits, vous le savez, on importe beaucoup de produits, là, le Mercosur, vous en avez entendu parler, XY. Ces produits qu'on va importer, il faut que quelqu'un les mange. Si les agriculteurs continuent de produire, de tenir le niveau de production qu'ils ont, il n'y aura plus la place pour faire manger ces produits importés signés.
Ah, vous vous dites qu'on embête les petits ici pour laisser de la place à ce qu'on amène de l'extérieur.
Voilà, on crée un climat de réduction de production à l'agriculture française pour établir une place aux produits d'importation.
D'accord. Ouais. Non, mais c'est cruel, mais tiens, on parle d'importation. Il y a la guerre en Iran, il y a Hormuz, visiblement, ça ne va pas se mettre de matériel. Est-ce qu'il y a des conséquences de ce qui se passe dans la guerre en Iran et le trois d'Hormuz sur l'agriculture française et en Dordogne en 2 minutes 30 là, quelles sont les conséquences de la guerre
en Iran? La première conséquence, elle est unanime pour tous, c'est l'énergie. C'est donc l'augmentation du coût de l'énergie qui a été immédiate, soudaine, imprévisible.
Ouais. Ah ben ça, oui.
Donc les agriculteurs sont concernés sur deux lignes. La première, c'est donc l'énergie, c'est le carburant, c'est le pétrole, la première ligne.
Le soufre.
Et le deuxième, ce sont les produits engrais. Tous les engrais, toutes les matières actives, toutes les matières organiques et minérales qui nous permettent de nourrir nos plantes. Parce qu'en fait, on n'avait pas réalisé encore au moment en janvier, il n'avait pas été réalisé les achats d'engrais suffisants. On venait juste sortir des achats d'automne pour passer aux achats de cultures de printemps. Donc les agriculteurs achètent aujourd'hui l'engrais au double du prix.
Aujourd'hui, déjà aujourd'hui.
Ah, mais ça, ça a pas mis longtemps, ça a mis 8 jours.
D'accord.
En 8 jours, le prix est doublé.
Ok.
Par contre, et là où la difficulté s'écrit pleinement, c'est que nos prix de vente que nous avons de production, que ce soit les céréales, tout ce que vous voulez, le lait, n'importe quoi, tous ces prix-là, eux, ont plutôt baissé.
D'accord.
C'est-à-dire que le cours du blé n'est pas monté, le cours du maïs n'est pas monté, le cours du lait est à la baisse, on est à 440 euros tonne, on va finir à 340. Enfin, tout est comme ça. Tous nos produits sont en train de baisser, toute la production agricole que vend l'agriculteur français baisse, dans un moment où on est dans un climat d'inflation terrible.
Il y a des producteurs qui vont morfler, là.
Il y a des producteurs qui vont disparaître.
Oui, parce que s'ils n'arrivent pas, si les prix de vente baissent alors que les frais et les achats obligatoires doublent.
C'est déjà qu'il n'y a pas de sous.
Oui, oui.
C'est même pas à peine de sortir la calculette. Hein. C'est immédiat.
D'accord.
Donc tout ça, c'est quand même...
Donc il faut vraiment se faire sa ferme autonome aujourd'hui, quoi.
C'est quand même une volonté.
Ça devient...
Oui, mais c'est quand
moi,
même
je le dis aux gens, faites votre potager, les gars. Hein. Comment ça vous prépare?
On est bien dans une volonté, parce que les prix sont tenus par les fonds de pension.
Mm-hmm.
Les prix sur tout ce qui est le prix céréal à Chicago, tout ça et tout, il y a les fonds de pension et tout ça. Ouais. Tout le monde contribue à la baisse.
Mm-hmm.
Tout le monde a contribué à établir un prix à la baisse,
mm-hmm.
alors que normalement, ces marchandises-là, ce sont des productions du minerai alimentaire qui auraient dû subir les cours des marchés, et là, il ne l'a pas subi.
D'accord. Donc en fait, on c'est trouver un petit terrain, un peu de permaculture, les panneaux solaires.
Mais là, on est vendu. Ils passent leur temps à nous détruire. Il n'y a pas un seul instant que le gouvernement et toutes les personnes qui sont autour, qui gravitent, passent son temps à détruire l'agriculture. On ne peut pas faire mieux.
Bon. Ok, c'était Alain Quéral, merci. J'espère que vous avez encore le moral sur RLP 102.3, j'espère que ça va mieux.
C'est
terrible, mais bon, on le sait tous plus ou moins, mais après tout, vous savez, il faut revenir à des valeurs saines, hein. Et puis, il y a aussi un plaisir à manger ses propres tomates ou celles du voisin, il y a un plaisir à faire ses choux-fleurs et ses pommes de terre. En plus, elles n'ont pas 3 semaines quand vous les cueillez, votre pomme, quand vous la mangez, c'est la vôtre. Moi, je pense qu'on revient vers l'authenticité, ce sont des valeurs qui ressortent, qui reviennent, et je crois que c'est la solution.
Voilà. C'est une difficulté pour que l'exploitant trouve le temps et les moyens de vendre ses productions en direct.
Ouais. Alain Quéral, merci d'être venu.
Merci.
Et aux auditeurs, à la semaine prochaine, la suite des programmes sur RLP.
RLP Business. RLP.
Radio Libre en Périgord.